Ah, ça nous avait manqué ce générique. Moi, en tout cas, ça m'avait manqué. Je sais pas vous, mais moi, ça m'avait manqué. Du coup, je suis avec Julien et tous les deux. On va parler de foot et on va parler tout de suite, dès le début, d'un sujet qui vous passionnera peut-être ou pas du tout. Ça dépend de vos affinités niveau footballistique. Mais on va parler de Paris parce qu'il y a des hauts et des bas. On peut parler de leurs mauvais résultats consécutifs avec une défaite 3-0 contre Montpellier, 2-2 contre le Ludogorets Razgrad, quand même un club bulgare, enfin totalement improbable, et ils ont fait 2-2 contre Nice, c'était un peu mieux.
Et mais toi, t'es pour Paris?
Non,
t'as l'air
jamais.
Déprimé quand tu parles de Paris.
Ah non, 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 c'est juste que ça reste un club français, et du coup, bah, ça m'intéresse de voir ce qu'ils font sur le plan européen, plan national. Je m'en fiche un peu, quoi.
Alors, c'est vrai que c'est un peu inquiétant puisque en principe, ils étaient censés un peu écraser le championnat et. Alors moi, du coup, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'ils ont eu raison de changer d'entraîneur en cours de saison?
Fin de saison dernière.
Fin de saison dernière,
pardon. Et moi, je dis que bien sûr que oui, parce que ça peut paraître étonnant vu ce qui se passe en même temps. Et justement, c'était un de mes points principaux, c'est ce coach est mis en difficulté par de nombreux médias français. Mais ça reste un super coach qui, à lui tout seul, a gagné plus de coupes européennes que l'intégralité du foot français. Du coup, je pense qu'on ne peut pas cracher sur son travail. Il a gagné 3 Ligues Europa d'affilée avec Séville, c'est pas non plus le meilleur club du monde. Il a un jeu quand même qui reste attrayant avec Séville. On a pu voir que c'était vraiment football offensif, rapide, qu'ils n'utilisaient pas à utiliser des comptes parfois et c'était vraiment beau à voir. Et en plus, le système de jeu qu'il essaie de mettre en place, ça correspond parfaitement aux qualités de Cavani, qui fait quand même, qui plante des buts. Enfin, c'est fou ce qu'il met, il en met plein, c'est un truc de fou.
Il en rate quand même pas mal aussi. Hein.
On va pas créer. Moi, enfin, il y en a qui critiquent Cavani, mais moi, je suis pas de ce genre-là parce que les actions qu'il loupe au final, c'est que des actions où c'est lui qui se les procure, quoi. C'est vraiment, il fait un travail fou, même défensivement, il pèse, il est bon de la tête. Il met des buts, il fait un travail d'attaquant. Donc.
Bon, en fait, on prend un petit peu d'avance sur l'émission d'après à l'ancienne, mais. Bon, au final, c'est un attaquant à l'ancienne. Cavani.
C'est ça, c'est totalement ça.
C'est un vrai
ça.
Buteur.
C'est un vrai buteur. Peut-être pas à l'ancienne, renard des surfaces, mais pas loin quand même. Enfin, il est vraiment bon. Mais pour moi, il y a quand même des mauvais choix. Parce que même si Emery, c'est un super coach et que. Enfin, Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné avec Bordeaux, il avait fait une saison folle. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Il est allé en équipe de France, il n'a rien fait. À Paris, il n'a pas su gérer parfaitement le vestiaire. Les joueurs jouaient entre eux, ils mettaient tout le temps la même composition. Et quand il y a eu des blessés ou des choses comme ça, il a paniqué, il a mis un 3-5-2 jamais préparé. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Donc, je pense que ce coach...
3-5-2
Ouais, du coup, oui, 3-5-2. On en avait déjà parlé l'année dernière. C'est un système tactique avec 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants. Mais dans les 5 milieux... Il y en a 2 qui sont excentrés, qui descendent pour jouer sur le côté gauche en défense, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué comme système de jeu. Mais...
En fait, le principe du 3-5-2, c'est que vous avez 3 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants qui ne bougent pas.
Ouais, c'est
et
ça.
Vous avez 2 gars qui sont sur les côtés, qui eux sont censés être très endurants et courir assez vite.
Et ils doivent faire le travail du milieu, le travail de la défense, tout le travail en fait. Et il n'avait pas l'équipe pour faire ça et... Enfin, ça n'a même pas été préparé à l'entraînement avant. C'est un système de jeu super compliqué à préparer. Ça n'a même pas été préparé. Donc, je comprends pas comment alors, il a pu.
Alors, moi, pour le coup, je suis un gros fanat du 3-5-2.
Ah non,
c'est
mais j'adore.
Système
ah,
de jeu préféré.
J'adore le 3-5-2 aussi. Et quand on regarde celui de l'Italie à l'Euro, c'était fou. Mais, si tu le prépares pas, ça sert à rien de.
Oui, mais les gars, c'est des professionnels. Ça ouais, fait pas 2 ans qu'ils font du foot. Ils
oui,
sont censés avoir un petit peu tout testé. Quoi.
3-5-2, quand même. Ça reste assez rare. Là, on s'égare un peu du sujet de base.
Mais pour moi, c'était logique le 3-5-2 parce que Manchester était connu pour avoir un super bon milieu de terrain et du coup, ouais. Bloquer le milieu de terrain, c'était pas forcément une mauvaise idée.
Sur le deuxième match, le 3-5-2 au match aller aurait pu être bien, mais sur le deuxième match, fallait juste attaquer et marquer des buts et c'était pas ce qu'il fallait, je pense là. En plus, surtout qu'ils avaient beaucoup de suspendus, beaucoup de blessés et faire ça avec des seconds couteaux, je pense que c'était pas une bonne idée.
Ouais, les seconds couteaux, c'est quand même des beaux couteaux. Hein.
C'est pas
du Laguiole, mais presque. Hein,
mais justement, je voulais en parler. Dans les mauvais choix de la mi-saison.
Pas de marque.
Dans les mauvais choix de la mi-saison, pour moi, il y a eu le recrutement. Parce que si on regarde en attaquant de pointe, il y a uniquement Cavani. Derrière, il n'y a pas de vrai attaquant de pointe, pas un seul.
Oui.
C'est que des joueurs de côté qui essayent d'aller un peu dans l'axe, mais ce n'est pas des vrais attaquants. Alors que quand tu regardes à Monaco, qui n'a pas beaucoup dépensé, ils jouent en 4-4-2, du coup, bah, 4 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants. Et eux, ils ont je ne sais pas combien d'attaquants, ils ont Germain et Falcao titulaires. Derrière, ils ont des joueurs comme Carrillo, tout ça, ils ont Corentin Jean, enfin, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Et ils sont vraiment bien équipés partout, alors que j'ai l'impression qu'à Paris, il n'y a que des milieux de terrain, en fait. Il n'y a que ça, que des milieux de terrain. Et on en a besoin, mais il ne faut pas que ça pour gagner, pour marquer des buts. Et en plus, un truc que bon, certains me le reprocheront, mais moi, j'hésite pas là-dessus, c'est que je ne comprends pas pourquoi choisir Areola plutôt que Trapp. Sur les 3 derniers matchs, il est mauvais. Le match d'avant, déjà, il n'était pas très bon et tout le monde avait dit « bon, c'est pas de sa faute » et tout ça. J'ai dit « non, d'accord, c'est pas de sa faute, il peut louper des matchs, ça arrive à tout le monde. » Mais là, il est en très mauvaise passe et Trapp, certes, il a fait des erreurs l'année dernière, mais il a quand même été, il a fait 3 mauvais matchs chez Paris en début de saison. Après, il a été très bon. Donc, j'espère que Areola va se reprendre et sinon, il faut mettre Trapp, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Et en plus, la défense, on parlait de Thiago Silva, Marquinhos l'année dernière, qui allait être un des points forts de l'équipe. Et bah, finalement, c'en est pas un, parce qu'ils sont vraiment mauvais tous les deux. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc.
Mais c'est une mauvaise bizarrement, passe. Bizarrement, on s'en était rendu compte il y a, ouais. Il y a quand même quelques années. Mais...
De quoi ? De Thiago Silva ?
La faiblesse de la défense parisienne, oui.
Ah oui, oui, non, mais bah, l'année dernière, Thiago Silva, Marquinhos, à chaque fois qu'ils avaient joué ensemble, justement, ça marchait. Donc c'était un parti pris que moi, j'étais pour le prendre. Donc, mais bon, c'est comme ça.
Alors, moi, le seul conseil que j'aurais à donner au PSG cette année, c'est de jouer les matchs à fond.
Ouais.
Et il y en a marre de jouer sur la réserve à chaque fois, de jouer 2 fois 10 minutes dans un match parce qu'on s'économise
pour
le match.
Parfois, ça manque d'intensité. Et si on regarde les meilleurs matchs, les matchs où ils mettent le plus d'intensité, c'est leur meilleur match au final. Les matchs où ils ont mis de l'intensité, là, ça a vraiment été beau. Ça, on a eu des dédoublements sur les côtés, c'était intéressant. Mais bon, faut qu'on passe au suivant.
Voilà.
Et bon. À la Ligue des Champions parce qu'il y a eu le tirage au sort hier.
Alors oui, moi j'ai raté et ça là, est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu?
Alors bah déjà, pour vous expliquer, c'est que moi je suis un gros fanat de Dortmund, vraiment j'adore ce club. Et Dortmund perdait contre le Real 2-1, enfin 2-0 même. Il y a un but de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, qui a joué en France très longtemps, à Saint-Etienne notamment, pas qu'à Saint-Etienne. Et il y a eu un but de Marco Reus à la toute fin qui égalise et du coup qui leur permet d'être premier de poule. Et ça a tout changé dans les tirages au sort au final parce que en gros quand on finissait premier on n'avait pas forcément que des bons choix quoi. Parce que du coup ça fait pour les Français ça va être très dur avec un Monaco Manchester City, même si Manchester City comme tu me l'as dit tout à l'heure ils sont pas au top du top, mais ça reste quand même un très gros club avec des très bons joueurs, des beaucoup de joueurs offensifs et quand même un très très bon entraîneur, on va pas se le cacher.
C'est qui l'entraîneur de Manchester City ?
C'est Pep Guardiola, je crois, un truc comme ça.
Ah oui, c'est un petit jeune connu celui-là, non ?
Oui, je sais plus, il commence là. Il est pas très bon encore. Paris va jouer contre le Barça, encore.
Une fois. C'était ça ou Chelsea, hein, de toute façon.
Ouais, donc. C'était ça ou Chelsea. Le Real contre Naples, on verra
ça
bien.
Ça peut être pas mal, ça.
Ça peut être un bon match.
Avec match retour à Naples, du coup.
Quoi ?
Match retour à Naples ?
Ouais. Ça va être intéressant.
Ouais.
Un Benfica Dortmund, match retour à Dortmund. Porto Turin, match retour à Turin. Leverkusen, Atlético de Madrid, pourquoi pas. Ça pourrait être un beau match aussi, pourquoi pas. Parce que Leverkusen, c'est une équipe qui a tendance à ouvrir le jeu. Et Séville qui a fini deuxième, qui a le cadeau, qui a Leicester. Allez hop, cadeau, tiens.
Ouais, voilà. Oh, ça devrait être.
Personne, tout le monde, tous les deuxièmes voulaient prendre Leicester, je pense. Et au final, bah, c'est Séville qui a eu la chance. Et il va y avoir quelque chose qui est un peu drôle, une petite anecdote, c'est que le Bayern va jouer contre Arsenal. Et Arsenal, à chaque fois, quasiment tous les ans, ils finissent deuxième de poule. Et en huitième de finale, ils jouaient contre le Bayern Munich et ils se faisaient éliminer. Ils étaient un peu dégoûtés. Et là, ils ont enfin fini premier de poule. Ils pouvaient se dire, ah, pour une fois, on va avoir de la chance au tirage. Et cette fois, c'est le Bayern qui a été un peu moins bon en poule, qui a fini deuxième derrière l'Atlético. Et bah, du coup, ça fait Bayern-Arsenal. Dommage pour eux. Et il nous reste de la Ligue Europa.
Mais en fait, du coup, il n'y a pas trop de surprises cette année dans les qualifiés. C'est plutôt
logique. Non, franchement, ouais, pour l'instant, ouais, ça va. C'est assez logique.
Il y a pas.
Après, il y a Tottenham qui a été éliminé. Ouais. On aurait pu les voir plus haut, mais bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus un gros scandale.
Dans les buts, il ne fallait pas s'attendre à mieux.
Mais... on se calme tout de suite, par contre.
je suis provocateur.
C'est un super gardien, arrêtez. Et sinon, il y a eu les tirages au sort de la Ligue Europa aussi. Et les Français de Lyon ont joué contre l'AZ Alkmaar, club néerlandais. Et Saint-Etienne va jouer contre Manchester United, affiche improbable, avec notamment le duel des frères Pogba, parce que Paul Pogba va jouer contre son frère qui joue à Saint-Etienne, Florentin Pogba. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et en gros, ça affiche, entre guillemets, il y a un Villarreal AS Roma qui pourrait être pas mal, et un Borussia Mönchengladbach Fiorentina aussi qui pourrait être pas mal, avec pas mal de buts. Et l'affiche que moi je vous conseille, avec, même si c'est pas super connu, c'est le Legia Varsovie contre l'Ajax Amsterdam. C'est deux équipes qui ouvrent leur jeu. Moi j'ai pu voir le Legia Varsovie contre Dortmund. Ils ont fait 7-4 il me semble, ou 7-4 je crois. Ils ont réussi à tenir en échec 3-3 le Real alors qu'ils menaient 3-2. Enfin, c'est vraiment une bonne surprise parce qu'ils ont tendance à vraiment attaquer. Donc pourquoi pas, on verra bien. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire. T'as quelque chose d'autre à dire là-dessus, sur ce sujet, sur ce que tu veux?
Moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du début de saison du Stade Malherbe de Caen? Oui, parce que là on a parlé un peu d'étoiles, donc on peut revenir sur...
C'est un sujet tabou. je comprends pas tout. On a fait des super matchs et des matchs. Enfin, quand on a fait des super matchs et des matchs beaucoup. Enfin, vraiment, on se demandait pourquoi, quoi. Pourquoi on est passé d'un jeu attrayant toute la saison dernière, ou quasiment, à un mauvais jeu, même si on a eu quand même une des plus belles surprises de ce début de saison, avec la seule défaite de Nice qui a été contre Caen. 1-0, et c'était un assez beau match.
Et ils sont combien au classement à Caen en ce moment? Après
Là, ils sont 18e, ouais. Ah, et ouais. Ils sont place de barragiste, parce que cette année, du coup, il y a un barrage. Le 18e de Ligue 1 affrontera le 3e de Ligue 2, mais ils ont un match en retard contre Nantes qui sont 19e. Donc, un peu déjà le match faut pas perdre, quoi.
Alors, attends, on va réexpliquer un petit peu plus la petite spécificité de cette année. Normalement, il y a 3 équipes qui peuvent descendre en Ligue inférieure et 3 équipes qui peuvent monter.
Ouais.
Et là, pour la première fois, il n'y aura que 2 équipes qui vont descendre et monter. Et la 3e équipe, du coup, ils vont s'affronter entre donc le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2 en match aller-retour.
C'est comme en Allemagne, où ils ont fait ça, et eux, ils ont une autre spécificité, c'est qu'ils sont 18 dans leur ligue. Ils ont pris le parti d'être moins dans leur ligue pour avoir moins de matchs et avoir du coup moins de fatigue accumulée pour pouvoir avoir de meilleurs résultats européens notamment. Donc c'est un parti pris des choses, quoi. Et là, ils se disent que si tu as une chance de moins de descendre, peut-être qu'il y aura du foot beaucoup plus offensif, parce que le truc qu'on reproche à la Ligue 1, c'est que ce soit pas offensif, que tout le monde ait peur de descendre. Et là, du coup, ça pourrait peut-être marcher, on verra bien. Mais pour l'instant, ça va, franchement, au niveau... On a eu des très bons matchs, on a eu des vraies purges, mais on a eu des très bons matchs quand même, donc on verra bien.
C'est quoi les 3 derniers à part Caen et Nantes, c'est qui le dernier?
Lorient.
C'est Lorient. Lorient, c'est très mauvais aussi, hein.
Ça va jouer, de toute façon, ça se joue toujours en fin d'année, on est d'accord.
Oui. Mais Lorient, c'est mauvais quand même. Lorient, d'ailleurs, je tiens à remarquer que le premier match de la saison, Lorient-Caen, c'était quand même un sacré match.
Ouais, j'avoue.
Il y avait. Ouais, je sais. Il y avait 2-0 pour Lorient et Caen a gagné finalement 3-2. C'était un très beau match. Mais bon, après, Lorient s'est totalement écroulé. Donc voilà, on a fini pour le foot et on va pouvoir laisser la main à Antim et à l'ancienne.